Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Mario Dumont.
Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
Mario Dumont.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon début de semaine, quelle journée chargée, un peu folle en actualité, et on va essayer à cette heure-ci de vous résumer ça. Merci d'être avec nous, c'est Alexandre Morinville-Ouellette qui va être là aujourd'hui. Salut Alexandre.
Bonjour Mario.
Et oui, toutes les nouvelles sont importantes, mais quand le Canadien pose un geste d'éclat, ça devient la nouvelle numéro un.
Ouais, après avoir suivi là, les dernières nouvelles qu'il y avait eu là, dans les derniers mois sur Carey Price qui s'était retiré de l'équipe et tout, là c'est Marc Bergevin, hein, ça a été tombé finalement dimanche ouais. Après.
Mais moi, je regardais le match samedi soir. Et nos collègues de TVA Sports, c'est devenu évident qu'on avait la nouvelle de Scott Mellenby qui avait démissionné, un adjoint de Marc Bergevin. Et à écouter nos experts entre les périodes, après le match, c'était assez évident qu'on était à un jour, deux jours, trois jours d'un gros mouvement là.
Et finalement, Geoff Molson aujourd'hui qui a parlé le propriétaire pour expliquer un peu la décision. Alors c'est sûr que c'est une énorme nouvelle qui est tombée.
On ne l'avait pas entendu souvent là, dans la mauvaise saison du Canadien. On va rejoindre Julie Marco.
15h30, c'est le temps d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario.
Bonjour.
Le variant Omicron, variant qui inquiète là, partout à travers le monde. Premier cas détecté au Québec. Est-ce que tu t'attends à davantage de Québec et d'Ottawa concernant les restrictions?
Il faut rester calme. On écoute les leaders un peu partout dans le monde. Président Biden aujourd'hui, là, on ne peut pas prendre panique. On a pris toute une série de mesures là, au cours des derniers mois, en commençant par les vaccins pour se protéger. Mais on ne peut pas prendre ça à la légère non plus. Il y a quelque chose de réel. Il y a un variant qui est là dont les premières données là, sont évidentes. Il est beaucoup plus contagieux que ce qu'on avait vu avant, ça c'est clair. On n'est pas certain qu'il soit plus sévère au niveau de ses conséquences sur la santé.
Oui, il rend les gens plus malades, on le sait pas.
Ouais, peut-être même moins. À la limite, les premières indications, en tout cas, c'est qu'il ne serait pas plus sévère, mais ça, on va le savoir quand on va l'avoir vu sur des grands nombres, quand il va être rentré dans des populations de personnes âgées, etc. On va pouvoir juger, là, avoir des statistiques. Donc, on ne peut pas paniquer, mais en même temps, on voit que ça mobilise nos gouvernements. Là, Christian Dubé fait cette conférence de presse à 13h. Le ministre canadien de la Santé, lui, est dans une conférence du G7, ou était dans une conférence du G7, où il en a été question. Donc, tout le monde est sur le qui-vive. Il n'y a pas de doute là-dessus, incluant les compagnies pharmaceutiques, incluant tous les experts en santé qui veulent mieux comprendre ce variant. Est-ce que les vaccins protègent? Est-ce qu'il faudra faire une nouvelle formulation des vaccins? Etc., etc., etc. Donc, c'est le genre de nouvelles qu'on craignait qu'arrivent un jour, parce qu'on nous le disait, là, quand le virus circule pendant des mois et des mois, dans des pays très peu vaccinés, à un moment donné, il va éclore de nouveaux variants. Le variant Delta, quand même, dominait, là, était sur la scène depuis un an. Là, c'était lui qui avait pris toute la place. Essentiellement, tout le monde qui avait la COVID là, depuis quelques mois, c'était tout du variant Delta. Parce que c'est toujours le plus contagieux qui finit par devenir le dominant puis qui est là. Et là, on en a un autre. Donc, histoire à suivre.
Il y a beaucoup de gens qui ont... Ben, c'est parce que je posais la question, Mario. Il y a beaucoup de gens qui ont fait leur sapin de Noël en fin de semaine. Je ne sais pas si c'est ton cas.
À moitié.
Mais c'est sûr qu'on bascule au mois de décembre, cette semaine. Les gens pensent à Noël. On n'en a pas eu l'année dernière. Es-tu optimiste pour le temps des fêtes?
Bien, au-delà du variant Omicron, t'es déjà dans une montée de cas quand même assez importante ici. Bon, là, on dit que ça ne monte pas encore dans les hospitalisations. Parce que, bon, il y a bien des gens vaccinés, il y a bien des nouveaux cas à chaque jour. Il y en a beaucoup qui sont chez les enfants. Mais ça monte quand même. Là. Donc, est-ce qu'on va pouvoir... Écoutez, soyons réalistes. Là. Il va y avoir des restrictions, il va y avoir des contraintes. Ceux pour qui j'ai une pensée, c'est que si le variant prend plus de place dans des pays où la vaccination n'est pas si élevée, beaucoup de gens qui ont prévu voyager dans le temps des fêtes. Là, aujourd'hui, Christian Dubé... Parce que tout le monde ne veut pas faire paniquer les gens. Mais en même temps, tout le monde veut donner. Puis on est aussi,
vigilants.
Ben oui, on est aussi là-dedans dans les médias que le gouvernement. C'est-à-dire, on veut donner leur juste à la population. Donc aujourd'hui, Christian Dubé, il dit ouais, là, les voyageurs, si vous partez pour quelques semaines, vous pouvez pas exclure que les règles. Si vous êtes dans un pays puis qu'il y a une éclosion épouvantable du nouveau variant dans ce pays-là, vous pouvez pas exclure que les règles changent en cours de route ou que les règles de retour au pays changent en cours de route. Donc, on revient dans un univers, bien, beaucoup de gens autour de moi que je connais là, qui ont prévu voyager, puis là, tout à coup, oups, on dit, ouais, là, on va voyager quand même, on va être plus prudent, mais tu sais, on sent dans le tableau de bord se rallumer une petite lumière jaune là, qu'on espérait avoir vu disparaître.
Canadien maintenant, Jeff Molson, qui a expliqué sa décision, la raison pour laquelle il a congédié Marc Bergevin. Ça s'est fait à 11 heures aujourd'hui, Mario. Il a engagé un Américain, Jeff Gorton, qui s'occupe donc, qui est VP opération hockey. Parle pas français, un Américain. Comprends-tu qu'il y avait personne d'assez bon au Québec pour repartir le CH? Comment tu vois ça, toi?
Comment je vois ça? Bien, on comprend bien que ce sera une... on comprend bien que ce sera... Il y a un côté décevant, c'est sûr, là, parce que je pense que ça va être le vrai boss des opérations hockey qui ne parlera pas français. Bon, celui qui va porter officiellement le titre de directeur-gérant va être un francophone. Ça, je pense qu'on a là-dessus, on n'a pas de doute. Fait qu'il y a un côté où je suis déçu. De l'autre côté, j'attends pour voir, parce que là, on avait des francophones, et sauf au poste de recruteur en chef. Et dans le recrutement, si on regarde un critère bien concret, là, le recrutement de joueurs issus de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça aurait pas pu être pire que dans les dernières années. Donc, peut-être qu'on sera plus sensible sur un front comme ça. Donc, j'attends pour voir. J'attends pour voir qui on va nommer, ce que ça va donner comme organisation sur le plan hockey. Mais, de l'autre côté, tu sais, il faudrait bien s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Ça ne pouvait pas continuer à durer.
Ouais, mais comment tu vois ça, toi, une direction bicéphale à deux têtes, c'est-à-dire un VP opération hockey, un DG, mais c'est le DG qui prendrait les décisions?
Dans ma tête, un VP, c'est lui qui va embaucher le DG. D'après moi, il va gagner plus. D'après moi, en termes de hiérarchie, il va être un personnage plus important dans la hiérarchie. Là, on corrigera, mais c'est mon sentiment. Ceci dit, je comprends aussi de la part de Jeff Molson qu'il y a une volonté sincère de régler des problèmes qui traînent depuis longtemps avec le Canadien. Il a parlé du recrutement, du développement des joueurs et de l'encadrement des joueurs. Et je pense qu'un VP organisation hockey va peut-être vouloir aussi se monter une équipe. On comprend que le marché de Montréal met beaucoup de pression sur les joueurs, sur les jeunes joueurs. Et on a plusieurs jeunes espoirs qui se sont très mal développés avant leur arrivée dans la Ligue nationale, dans leur passage dans la Ligue nationale, le passage aux gros revenus, le passage aux médias tous les jours. Donc, disons qu'il y a des choses que j'aime. J'ai comme l'impression d'un Jeff Molson plus conscient de l'ensemble du tableau des problèmes, des affaires qui ont été négligées, qui ont traîné depuis des années, et que là, au moment où il veut mettre en place toute une nouvelle équipe. Donc, est-ce que, comme il y a plusieurs bonnes choses, bon, là, il y a un VP opération hockey dont on me dit beaucoup de bien, sincèrement, je le connais pas. Je suis pas en mesure de juger, mais il parle pas français. Donc, j'ai cette déception-là. Mais à côté, si je me rendais compte que dans cinq ans, on a mis en place, par exemple, un directeur du recrutement qui est un francophone, qui connaît mieux la Ligue de hockey junior majeure du Québec, qui recrute des perles, je ne veux pas dire des choses aujourd'hui que je ravalerais dans 5 ans. Mais est-ce que je vois bien ce que je vois, là, qu'il y a un VP opération hockey qui ne parle pas français, c'est une évidence. Là.
Le Lightning a engagé plein de Québécois. On a fait plusieurs entrevues lors de la dernière Coupe Stanley, la saison dernière, puis... On se dit, comment se fait-il que Jeff Molson n'ait pas pensé trouver quelqu'un d'assez bon au Québec? Il y en a plein, là, qui auraient pu relancer l'équipe.
C'est une très bonne question. Mais c'est ça, c'est à lui l'équipe. Là. C'est à Attends lui l'équipe. Voir. Nous, on a, on a le droit de chialer, mais c'est à lui l'équipe. Bien, tu sais, moi, je pense que ce coup de balai... Écoute, le Canadien va mal depuis quelques années quand même. Sauf qu'on dirait que... On dirait que Jeff Molson, à chaque fois qu'il avait le balai dans les mains, il arrivait toutes sortes de hasards. Tu sais, le Canadien avait une saison horrible il y a 2 ans. Là. Terrible. C'était une équipe épouvantable à avoir joué. Mais là, finalement, à cause de la COVID, mathématiquement, ils n'étaient pas encore éliminés des séries. Fait qu'on les rentre, on les prend éliminer les séries, puis on les rentre dans les séries accidentellement, puis là, ils gagnent une ronde. Puis l'année passée, ils étaient en dehors des séries encore, mais finalement, par la peau des fesses, rentrent par un point d'un série.
Et là, par c'est souvent Price qui faisait la différence.
Oui, oui. Et là, par une série de miracles de Price, du leadership de Corey Perry, Canadiens sera en finale de la Coupe cette année, alors que c'était une équipe qu'on pensait jamais qu'elle allait faire les séries. Fait que là, on dirait qu'il y a comme une série de miracles qui ont ramené toujours Marc Bergevin au moment où le fil allait casser. Mais là, cette année, ben là, on se rend compte que c'est une équipe qui va absolument nulle part, qui a rien, là, hein, qui a plus d'équipe. Il n'y a plus rien à Laval, il n'y a plus rien dans le pipeline qui s'en vient. Laval est Canadien dans le peloton de queue, Laval dans le peloton de queue, tout est à terre. Et là, ben, on reconstruit à partir d'une poignée du jeune joueur.
Dominique Ducharme a 60 matchs pour assurer son avenir. Parce que...
J'ai hâte c'est une grosse reconstruction. Mettons, on repart de, on repart à pas grand-chose. Des gros contrats de joueurs qui sont finis. Ou qui sont vraiment en fin de carrière. C'est ça qu'on a, là. Des gros contrats de joueurs en fin de carrière, puis pas beaucoup de bons jeunes dans le pipeline. Je dirais, ceux qui reprennent ça, on leur souhaite la meilleure des chances.
Mario, t'as vu cette vidéo circulant abondamment fin de semaine, l'arrestation, interpellation musclée à Québec. Comment peut-on voir ce type d'interpellation au Québec en 2021, selon toi?
Ce qui m'étonne, c'est que le SPVQ, je comprends bien qu'on a une enquête interne, mais je comprends pas que le SPVQ ne donne pas minimalement un peu d'informations. On ne sait même pas, là où on se parle, on ne sait même pas qu'est-ce qui se passait, là. Est-ce que quel article du code criminel était en frein ou du code... Qu'est-ce qui... tu fais une interpellation policière aussi violente, là, il faut que tu sois en train de prévenir quelque chose, d'empêcher qu'un crime se commette, de reprendre le contrôle sur une situation hors contrôle. Alors, au moins, le service de police de la Ville de Québec devrait nous donner au moins les bases de qu'est-ce qui se passait, quel était le sens de l'intervention. Là, on n'en sait rien. Donc, c'est une dénonciation généralisée de tout le monde politique. Là, on a une enquête interne du SPVQ. J'entendais Mme Anglade ce matin, qui était quand même assez convaincante, à demander, ça prendrait une enquête vraiment indépendante. Donc, le SPVQ n'a pas 6 mois là, pour nous donner au moins, bon... Peut-être qu'on pourra creuser davantage, mais donner au moins les paramètres, nous dire que c'est sérieux, parce que je pense que la pression va venir trop forte. Le SPVQ va devoir céder cette enquête à un niveau supérieur d'indépendance. Mais là, on attend au moins... Pour l'instant, là, c'est terrible. On a juste les images. On n'a même pas le début du commencement d'une explication de ce qui se passait.
En terminant, Forum pour contrer la violence à Montréal, ça se passe à la fin du mois de janvier. Mario, est-ce que l'heure est encore au Forum? Alors que des fusillades à Montréal, il y en a à peu près une par semaine. Là.
C'est la question que je me suis posée ce matin. Quand même des gens qui justifient l'existence d'un forum, qui disent la police puis d'autres organismes communautaires, puis tout ça, ça travaille pas toujours spontanément ensemble, mais ça pourrait se rendre service les uns les autres si ça se parlait davantage. Donc j'accepte cet argument-là. Mais c'est certain que le premier réflexe que t'exprimes dans ta question que j'ai eu ce matin, et je pense que beaucoup de citoyens ont, c'est ouais, là, quand les jeunes se font tirer à bout portant sur le trottoir, est-ce qu'on est à l'étape des comités, des discussions, des forums? Donc c'est un forum qui doit se faire en parallèle d'une action policière. Faut surtout pas que le public sente que la police se met sur pause en attendant le forum. Faut qu'on sente qu'on est en action, on donne des résultats, et pour aller encore plus loin, un forum arrive sur le chemin, là. Mais pas un forum en attendant l'action, un forum en parallèle d'une action énergique.
Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
Au revoir. Alors, Alexandre, dans les autres nouvelles, mais faisons le bilan des cas. On a parlé de la COVID, mais faisons peut-être le bilan des cas du jour.
Oui, la bonne nouvelle, c'est que du niveau des hospitalisations, là, c'est une petite hausse, mais rien d'alarmant. Il y en a 10 de plus aujourd'hui. 2 décès également qui sont à déplorer. C'est 756 nouveaux cas en tout là qui sont rajoutés aujourd'hui au bilan COVID. Moins 3 personnes aussi aux soins intensifs, mais c'est surtout, évidemment, les cas du variant Omicron qui sont à surveiller. Et il y en a un ici au Québec, qui a été confirmé, le premier par le ministre de la Santé, Christian Dubé. On avait déjà appris là, pendant la fin de semaine là, qu'il y avait 2 cas en Ontario qui avaient transité par Montréal avant de se rendre à Ottawa. Et donc, en ce moment...
Et qui arrivaient ceux-là du Nigeria, qui n'est même pas un pays qui est sur la liste. Disons que la fermeture des frontières a satisfait beaucoup de gens comme un geste de prudence immédiate. Mais plus on se rend compte que le variant est partout, plus on se rend compte que les cas, exemple le cas de Belgique... Mais lui, c'est une personne, un voyageur ou une voyageuse qui arrivait d'Égypte. un autre pays d'Afrique, mais qui est pas du tout dans la, qui est à l'autre extrême, qui est dans le nord, alors que c'est les pays d'Afrique australe, les pays d'Afrique dans le sud, dont on a fermé les frontières. Et au Canada, c'est un cas du Nigeria. Le cas à Hong Kong. Il y a un cas à Hong Kong. Mais finalement, cette personne-là arrivait du Canada. Fait que donc, l'impression générale, c'est que le variant Omicron, il se promène pas mal sur la planète. Au moment où on le découvre, là, on découvre son existence et on se met à le chercher.
Il est déjà rendu un peu partout là, sur la planète.
C'est pas mal l'impression que ça donne.
Puis pire que ça, tu le disais, c'est comme une chance qu'on l'ait attrapé. Puis c'est parce que c'est des voyageurs qui ont été testés, on apprend au hasard à leur arrivée. Parce que maintenant, ils les testent comme ça sur les voyageurs
vaccinés. Un sur quatre à peu près qu'ils nous disent, je pense.
Ben, c'est ça, c'est effectué par tirage au sort. Et là, par hasard, on a attrapé ces gens-là qui venaient pas d'un pays qui était surveillé en plus. Donc, on n'imagine pas que si on a attrapé des gens comme ça par hasard, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont passés au travers des mailles du filet? En ce moment, c'est 115 personnes là, qui ont été appelées isolées en provenance d'Afrique du Sud, là, règle générale des pays qui sont à surveiller ici au Québec.
Oui, parce que tous les voyageurs issus de ces pays-là doivent se mettre en confinement.
Oui, absolument. Là, c'est ce qu'on a demandé, évidemment. Là, puis il va falloir continuer à surveiller les frontières, mais c'est ces cas-là qui sont surveillés en ce moment par le ministère de la Santé ici au Québec. Tout ça en plus de l'échappement vaccinal. Hein, c'est le terme qui a été répété par le ministre de la Santé, ouais. Christian Dubé.
Mais là, les compagnies, la semaine passée, vendredi soir, c'était Moderna. Là, ce matin, c'est Pfizer qui disent travailler déjà sur une... Ah ben, d'abord, à savoir est-ce qu'une nouvelle version du vaccin va être nécessaire ou pas. Parce que dans le cas... Ouais. On nous avait dit ça dans le cas de Delta aussi. Ah, ça va prendre peut-être un nouveau vaccin. Puis finalement, le même vaccin était bon.
Oui, parce qu'ils ont fait en moins de 100 jours, ça c'est la bonne nouvelle, des vaccins pour le variant Delta, même le variant Beta aussi, dont on se souvient à peu près plus maintenant aussi, là, qui est tombé dans l'oubli puis qui a été remplacé évidemment par les autres variants qui sont survenus après. Mais on a fait en moins de 100 jours des variants, des vaccins pour ces variants-là. Et on a assuré qu'en 95 jours, du côté de Pfizer, on serait capable de produire des doses de rappel qui seraient efficaces contre ce variant-là. Mais évidemment, il faut attendre de comprendre justement cet évitement vaccinal-là, à quel point ce nouveau variant-là peut passer au-delà des vaccins que les gens ont reçus. C'est la principale inquiétude qu'on a ici au Québec, vu que le taux de vaccination est relativement élevé en ce moment, parce que ça pourrait vraiment devenir une épine dans le pied puis tout un casse-tête pour le ministère de la Santé, surtout en arrivant près des vacances de Noël. C'est d'ailleurs là, ce qu'on a dit du côté du gouvernement. Le 6 décembre prochain, on devrait avoir plus de détails par rapport à ce qui va,
Noël,
ce qui va survenir
à
Noël.
En fait, je vais le reformuler. Ça, c'est ce que le ministre a dit. Moi, ce que j'entends, c'est que avant le 6 décembre, on a trop d'incertitudes pour donner quelques garanties, parce que moi, je pense pas qu'il faille exclure que le 6 décembre... Mettons que la situation est vraiment instable, qu'il y a une hausse des cas... Je pense que le 6 décembre, le gouvernement pourrait se dire, ben regarde, là, on se donne une autre semaine. Mais moi, je l'interprète comme quoi, avant le 6 décembre, là, on bouge. Ben le 6 décembre, c'est dans une semaine, c'est pas loin.
Oui, c'est vraiment pas loin.
Avant le 6 décembre, on touche à rien, on s'engage à rien, on regarde venir les coups.
Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
Mario Dumont.
Cube Radio.
Bernard Brisset, commentateur sportif, ex-vice-président aux communications marketing du Canadien de Montréal, est avec nous. Bonjour Bernard.
Bonjour Mario.
Avant de parler du fond, là, juste sur la forme, toi qui l'as vécu, comment t'imagines là, le dernier 48-72 heures? Je pense que la démission de Scott Mellenby en fin de semaine, c'était pas prévu pour Jeff Molson. À quel point ça a dû paniquer, accélérer les choses, conférence de presse d'urgence. Je suis vraiment curieux de t'entendre. Imaginez l'atmosphère qui a régné là, dans les dernières heures.
Oui, d'autant plus qu'il n'y avait plus personne aux communications pour...
Parce qu'on le mettait dehors, lui aussi, oui, c'est ça.
Il était dehors, lui aussi. Une drôle d'histoire, ça veut dire. Mais en tout cas, non, ça a dû... C'est sûr que Molson n'avait pas prévu, lui, de devoir faire une annonce un peu comme ça, de rapidement, dimanche. D'après ce qu'on sait, c'est qu'il pensait faire une conférence de presse peut-être aujourd'hui ou demain. Ça a juste précipité. Évidemment, c'est selon moi, là, pour clarifier ça, c'est aussi croche que la saison tout ensemble en entier du Canadien jusqu'à maintenant.
OK, ouais, parce que pour toi, l'opération est un peu ratée. C'est-à-dire que le fait que normalement, on aurait dû tout contrôler les paramètres, pas échapper à la démission de Mellenby en chemin...
Ben, oui, normalement, c'est ce qui aurait dû être fait. C'est ce qu'ils ont sûrement prévu faire. Mais quant à moi, ils ont bien récupéré. Par contre, aujourd'hui, j'ai trouvé la sortie de M. Molson très solide. Je ne l'ai jamais vu comme ça. On voit qu'il connaissait non seulement son dossier, mais qu'il avait appris à répondre à toutes les questions. Il était très, très bien préparé. Puis il l'a bien rendu. Je pense qu'il a été crédible dans l'ensemble de ses réponses.
Puis il avait pas l'air de fuir, là, de se sauver de la situation, là.
Non, je l'ai jamais vu comme ça. Et la seule chose, par contre, que j'ai une petite tendance à pouvoir lui reprocher, c'est de toujours avoir cette envie-là de dire que moi, je ne prends aucune décision, je ne suis pas du tout mêlé au hockey. C'est des décisions qui vont appartenir à M. Gorton puis au futur DG.
C'est pas vrai, c'est pas complètement vrai, ça?
Ben, écoute, il est consulté. Puis c'est sûr que si le président de la compagnie donne son opinion, ses subalternes, quels qu'ils soient, doivent avoir tendance, une fois de temps en temps, à l'écouter. Tu peux pas complètement te détacher d'une situation comme il l'a fait. Ça, j'ai trouvé ça un peu faible, mais d'un autre côté, c'est une bonne chose qu'ils disent que les prochains Gorton et son futur DG vont être ceux qui vont devoir prendre toutes les décisions de hockey. Mmh. Je pense que c'est ça que le monde voulait savoir. Tu sais, lui, Jeff Molson, c'est un gars d'affaires. Il n'y a pas beaucoup de crédibilité au plan hockey.
Non, sauf que comme c'est lui qui signe les chèques, même s'il dit juste comme ça, tout bonnement, « Ah, faites ce que vous voulez, là, mais moi, telle chose », ça a un poids, là, parce que les gens se disent « Ouais, là, si on va à l'encontre de sa volonté, on va y expliquer 16 fois pour qu'il soit fâché. »
Ben, penses-tu qu'il n'a pas eu son mot à dire, lui, quand Bergevin est allé le voir en lui disant « Ben, je voudrais ça signer Suzuki pour 63 millions de dollars pour les 8 prochaines années. » Il me semble que, comme président, il a son mot à dire, puis il faut qu'il l'aille aussi, c'est sa compagnie.
Avant d'engager des dizaines de millions. Un mot sur Bergevin. 9 années. Moi, c'est drôle, mon feeling, c'est que c'est un gars qui a été bon à faire des échanges, puis qui s'est coulé dans sa patience avec son recruteur.
Entre autres, t'es obligé de faire le comme bilan, là, de regarder ce que c'était en 2012 quand on lui a donné l'équipe. Puis ce que c'est aujourd'hui, 10 ans plus tard, il n'a pas avancé d'un pouce. Tu sais, il n'y a pas la même équipe, aussi pourrie. Il n'y a rien qui se produit. Le coach, on ne sait pas s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Les joueurs, ça fonctionne. Écoute, cette année, c'est l'enfer. Puis les dernières années aussi, il ne faut pas se leurrer. On s'est tous leurrés un peu avec le chemin qui a mené à la Coupe cette année.
C'est un accident, là.
Un accident de parcours. Puis c'est une équipe, les deux dernières années, qui a fait les séries. Mais pour laquelle on a quasiment on a changé les règlements pour qu'ils fassent les séries. Tu sais, faut pas se leurrer. Puis là, la preuve est faite aujourd'hui. Là, on se rend compte que c'est une équipe qui fait partie de vraiment du groupe d'équipe inférieure de la Ligue nationale.
Ouais.
Alors Bergevin, pour résumer, je pense que c'est ça. Il a fait un job, ben disons honnête au mieux. Il a rien d'évolutionné. Tu sais, il a fait quelques transactions qui ont fait du bruit. Mais dans l'ensemble, son équipe n'est pas meilleure que ce qu'elle était.
Ouais. Pour Jeff Molson, l'urgence ou la priorité, c'est quoi? Là? C'est-tu sauver la saison? D'abord, sauver la saison, es-tu déjà dans la colonne des pertes, bien à côté, là, dans le fond de la colonne des pertes, ou on a encore ce rêve-là là, de sauver la saison?
Ben, écoute, c'est difficile. Là, où ils sont quoi, déjà... Là, 10 points derrière là, pour faire les séries.
Jean-Charles Lajoie a fait le calcul. Il faudrait que le Canadien gagne 71% des matchs qui restent pour avoir une chance de se faufiler en série.
Ils n'ont pas fait ça depuis 20 ans. Fait que, non, je pense que c'est se leurrer. Puis de toute façon, dans l'esprit des amateurs, présentement, c'est une saison perdue. Alors, Jeff Gorton, son nouveau DG, son éventuel, ils vont devoir se dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des joueurs dont il faut qu'ils se débarrassent. Ils peuvent aller chercher des bons choix de repêchage avec certains vétérans, là. Je pense à Petrie, je pense à Jarrett, des gars comme ceux-là. Capables de écoute, là, on ne devrait plus parler du fameux reset, là, le mot que j'ai détesté depuis 2-3 ans. Là. Là, c'est une vraie reconstruction. Il faut se lancer là-dedans. Puis, t'as quand même un bon petit noyau, là. Suzuki, Caulfield.
Romanoff. Il y en a-tu d'autres, ces trois-là? C'est Evans. Peut-être Evans. Peut-être 4.
Bon, Evans, c'est ordinaire, quand même. Mais c'est ça. Il y a au moins ces trois-là. Tu peux partir avec ça. C'est pas des super vedettes, mais au moins, ça te donne quelque chose. Et là, il faut que tu bâtisses. Puis, quand on parle d'aller chercher un gars comme Jeff Gorton, c'est dommage qu'on soit pas allé chercher un Québécois. Mais je pense qu'il n'y en a pas de Québécois présentement dans le monde du hockey qui peut arriver au sein de la Ligue, qui a une réputation de gars qui connaît tout le monde et qui est capable d'aller chercher des joueurs, qui est capable de faire les gros gestes, de poser les gros gestes. Il n'y en a pas présentement. Il y a des bons Québécois qui s'en viennent, là, mais je pense qu'ils sont au deuxième niveau. Puis c'est dans ce sens-là, je suis content que Molson soit allé chercher un gars comme ça.
Donc, il est vraiment fort. Pour toi, il n'y a pas d'ambiguïté, il est vraiment fort. Gorton.
Il est vraiment fort. Écoute, il a fait une bonne job avec les Rangers. Il les a montés. On se demande comment ça se fait qu'il n'est plus là. Il n'est plus là parce qu'il y a une chicane avec le président. Mais quand tu regardes les Rangers, c'est une équipe qui s'est développée nettement plus rapidement que ce qui avait été prévu. Ça fait 3 ans, eux, qui ont envoyé une lettre à leurs partisans pour dire « Maintenant, on entre en reconstruction. » Et là, ils sont une des bonnes équipes de la Ligue à ce moment-ci. Donc, il a fait ça vite. Il a fait le job. Je pense que c'est un bon choix.
OK. Est-ce qu'une vraie reconstruction, là, ça veut-tu dire finir dans la cave 3 ans de suite, ça? Pour repêcher haut puis aller chercher des... Non, mais le partisan, ça demande ça, là.
S'il fait comme les Rangers, ça a été ça. Trois ans mauvaises, mais même s'il ne fait pas de reconstruction, dans le moment, s'il continue avec les gars qu'on a aujourd'hui...
Il va finir dans la cave 3 ans.
Dans la cave pareil.
Ouais, ouais, ça...
C'est bon, dans la cave cette année sans reconstruire. Puis, c'est peut-être une année de démolition, là, peut-être, mais en quelque part... Là, Non, il faut qu'il y ait des gestes plus positifs que ça.
Ouais. Est-ce qu'il est pris...
En plus, il faut qu'il regarde la situation de l'entraîneur. Tu sais, Dominique Ducharme, là, on ne sait pas encore s'il est bon. On ne sait pas encore si c'est lui qui fait la job. Présentement, quand on regarde le Canadien, déjà depuis un mois ou deux, là, on a l'impression que cette équipe-là ne répond pas à son entraîneur. Cette équipe-là...
Excuse-moi, mais c'était pareil. L'année passée, là, il y a eu l'illusion des séries. Ne me demande pas ce qui s'est passé. Là. Corey Perry, puis un trio de leadership qui s'est levé dans la chambre. Il est arrivé un miracle, OK? Mais...
Ouais, mais attends une minute.
En saison régulière, là, c'était un désastre. Là. Ils sont rentrés en série grâce au point qu'avait accumulé Claude Julien. Là. Dominique Ducharme...
Donc, la réponse est presque connue. Est-ce qu'il n'est pas à sa place? C'est méchant de dire ça, mais je pense que Dominique Ducharme n'est pas à sa place. Parce que le bon bout qu'ils ont fait dans les séries, rappelons-nous les choses, c'est qui était derrière le banc? C'était Luke Richardson.
Mais il a gagné 5 matchs sur 13, hein?
Oui, avec. Il a gagné 2 séries à lui tout seul comme coach. Fait que c'est une des priorités de la nouvelle direction du Canadien d'évaluer le coach. Mais il est peut-être trop tard cette année pour le remplacer.
Est-ce que le nouveau directeur gérant est pris avec des contrats, lourds, des contrats que, à la limite, si tu veux repasser le joueur, j'en ai 3 au moins en tête, là, mais le contrat, bon, évidemment, Carey Price. Ça, c'en est un. Il reste quoi? Il va rester 4 années à la fin de celle-ci. Est-ce qu'il peut encore avoir 4 bonnes années où il vaut ce qu'on lui paye? Pire encore, à mon avis, c'est Brendan Gallagher qui suit plus le jeu, là, qui peut être encore utile, des fois, en avantage, se mettre devant le filet, mais qui peut plus passer la rondelle, qui peut plus la promener. Puis là, lui, c'est un nouveau contrat, gros contrat, première année. Qu'est-ce que tu fais avec ça?
Ben, écoute, c'est une bonne question. Gallagher, tu peux essayer de le passer, effectivement, mais est-ce qu'il a véritablement ralenti ce gars-là ou c'est une question de circonstance cette année? Il est dans un contexte tellement délirant que lui-même n'est plus capable de jouer. Jeff Petrie, encore une couple d'années, lui, c'en est un autre qui devrait essayer de passer. Sherrod Finney.
Toffoli.
Toffoli, c'est un gars, j'aurais peut-être tendance à le garder aussi, tu sais, comme Anderson.
Anderson, oui.
Mais d'un autre côté, chez Weber, il faut qu'il règle ça. Il y a encore 2-3 ans de contrat, ce gars-là.
C'était mon troisième, là. Mais là, lui, il a l'air d'être pas loin de la retraite, là, en tout cas.
Oui, mais pourquoi il prend pas sa retraite? C'est parce qu'il veut ramasser l'argent. Tu sais, en quelque part, il y a ça. Fait que c'est toutes des considérations là, auxquelles la nouvelle direction va devoir se livrer.
Il y a comme un Sénat dans le Canadien, là, des gens rémunérés pour services rendus, là, mais. T'sais, c'est une belle loyauté, c'est parfait là, en termes de d'être humain et respectueux des gens. Sauf qu'à un moment donné, ça glace, si le gros du salaire s'en va pour des services rendus il y a 5 ans passés, tu manques d'argent pour avoir une équipe compétitive cette année, non?
Ben, c'est le problème du hockey, comme le baseball. Le football n'a pas ce problème. Là. Les contrats sont pas garantis, mais il reste une chose, c'est qu'il faut absolument que le Canadien se débrouille à chercher des nouveaux joueurs qui coûtent moins cher parce que, qu'on le veuille ou non, il est à côté au plafond salarial, il est au maximum. C'est pas évident comme situation. Honnêtement, c'est une situation de club là, qui est. Il me semble que c'est le genre de choses qu'on lisait anciennement pour des clubs comme Saint-Louis, comme. Pas Colorado, là, mais l'Arizona. Tu sais, des mauvais clubs.
Ouais, mais le Canadien, c'est pas mal ça qui est devenu, malheureusement, un mauvais club. Eh bien, on va espérer que c'est une nouvelle ère. Est-ce que c'est possible que c'est une nouvelle ère qui s'amorce?
On n'a pas le choix, parce que si on reste dans cette ère-là, on va avoir l'air bête longtemps.
Merci beaucoup, Bernard. Bernard Brisson, ancien vice-président communication et marketing du Canadien.
Combiner crédibilité et curiosité.
Mario Dumont.
Cube Radio.
Alors, voici le moment de l'année. Bon, d'abord, où l'hiver commence déjà à se pointer un peu le bout du nez. Aujourd'hui, c'est pas mal de température hivernale pour avoir marché pas mal dehors. Là, c'est les gants puis le bout du nez rouge. Et on se demande quel genre d'hiver nous aurons. Régent Ouimet, météorologue pour Météo Média, alors qu'ils viennent de sortir leur aperçu de l'hiver 21-22. Bonjour, Monsieur Ouimet.
Bonjour.
Alors, on parle d'un hiver, votre titre parle d'un hiver mémorable. Pourquoi s'en souviendra-t-on?
Ben, dans ce sens qu'on risque d'avoir quand même des épisodes de précipitation là, qui pourraient quand même marquer. Donc, on parle de tempêtes peut-être un peu plus fréquentes que ce qu'on voit d'habitude. Chose certaine, plus fréquente que ce qu'on a vu au cours de l'hiver 2021, qui a été particulièrement tranquille. Juste à titre d'exemple, là, du 1er janvier jusqu'à la fin du mois de février, pas une goutte de pluie qui est tombée sur le sud du Québec. Ça, c'est quand même assez rare et extraordinaire. Déjà, on a un petit coucou qui s'est fait là, à la fin de la semaine dernière avec l'espèce de neige mouillée qui a viré en glace. Alors, c'est le type de scénario qui pourrait se reproduire au cours de cet hiver. Je pense que ça va être le trait dominant. Autrement, on prévoit un hiver doux. Donc, ça, habituellement, ça ne marque pas nécessairement les esprits, là. Mais c'est un hiver qui va être doux dans l'ensemble.
Je reviendrai sur la douceur, mais je continue à ce que vous parliez sur les précipitations. Ce que je lis, c'est qu'il y aurait beaucoup de précipitations, c'est-à-dire un hiver avec plusieurs tempêtes de neige, puis parfois, il va faire au-dessus de zéro, fait que pluie, verglas ou mélange, donc de toutes les sortes de précipitations, on serait susceptible d'en avoir pas mal.
Oui, effectivement, davantage qu'on en voit d'habitude. Une des clés, là, si on veut, on sait que ça fait pas mal partie de l'actualité, ce qui se passe sur la côte de la Colombie-Britannique. De ce côté, on prévoit un hiver passablement achalandé. Donc là, vous allez avoir des tempêtes qui vont succéder sur les Rocheuses. Ensuite, reformation de l'autre côté. On appelle ça des perturbations du Colorado. Alors ça va se développer de ce côté, puis on ramasse en chemin à l'occasion d'humidité en provenance du golfe du Mexique. Donc, sous-entendu, il y a de la chaleur là-dedans. Donc, deux types de précipitations potentielles. Évidemment, il y a des tantôt pendant l'hiver où ça va être suffisamment froid pour qu'on reste en neige, mais il y a d'autres tantôt où les systèmes vont passer un peu plus au nord, donc ça veut dire qu'on passe de la neige à la pluie verglaçante et à la pluie. Mais au total, avec une plus grande fréquence de perturbations, surtout si on invoque l'humidité qui vient du golfe du Mexique, là, ça, c'est susceptible de nous amener des quantités plus grandes de précipitations sur l'ensemble de la saison.
Mais de façon générale, moins de grand froid ou pas de grand froid sibérien, là?
Exactement. Bon, un hiver normal, là, au Québec, on a à 9 reprises des températures qui descendent à moins 20 à Montréal, moins 25 du côté de Québec et moins 30 en Abitibi. À 9 reprises. Là-dessus, la moitié du temps, ça va durer plus que 3 jours. Ça s'appelle une vague de froid. L'hiver dernier, on a eu la moitié des poussées de froid. On a eu 0 vague de froid. Cette année, les vagues de froid devraient être discrètes. Par contre, les poussées de froid, là, des petits épisodes qui vont venir se manifester, ça, on risque d'en avoir probablement plus que ce qu'on a connu au cours de l'hiver de l'année dernière. Les secteurs plus susceptibles d'être touchés par le froid, de l'Abitibi vers l'Outaouais, à l'inverse, vers l'est du Québec, en Gaspésie, ça risque d'être un peu moins présent là, en termes de poussées de froid.
Je vous écoute, là, l'année passée, on était dans des couvre-feux, des confinements enfermés dans nos maisons. Mais on a tout oublié, là, mais l'hiver n'a pas été dur. Parce que non. Vous comparez, non, c'est ça. Quand l'hiver est dur, on s'en souvient. Quand il n'est pas dur, on l'oublie.
Bien, l'année dernière, c'est ça. Ce qui était extraordinaire, on avait droit à une activité, c'est d'aller se promener au parc. Là, les parcs ont été super achalandés du côté de Montréal, puis on avait de belles conditions, un maximum de belles fins de semaine, le nombre qu'on voit habituellement au cours d'un été. Donc, c'était vraiment là, un hiver pas rapport, confortable au niveau des températures, et puis vraiment peu de systèmes de pluie ou de toutes sortes de choses qui font en sorte que les trottoirs sont glacés, les surfaces sont glacées et impraticables. Donc, tout était réuni pour nous aider, si on veut, à supporter l'enfer de la COVID l'année dernière. Là, cette année, ça risque d'être un petit peu moins charmant que ce qu'on a vécu. Ce sera difficile quand même d'avoir un hiver aussi parfait que ce qu'on a vécu en 2021.
Bien, on va s'atteler. L'hiver est long au total, parce que c'est une autre question non. Qu'on se pose. Non, là, on a l'impression qu'il est commencé l'hiver. Est-ce que c'est le cas? Mettons, la neige là, qui est déjà durcie là, sur les bords des bâtiments, puis le bord, est-ce qu'on peut penser que c'est de la neige qui va fondre au mois de mars-avril, qu'elle est installée, ou il y a encore des gros redoux à venir?
C'est une très bonne question. Ce qu'on voit, là, c'est que le mois de décembre risque d'être plus froid que ce qu'on a vu la tradition des dernières années, où on hésitait et on se posait la question, est-ce qu'on va avoir un Noël blanc jusqu'à la dernière minute, là? Ça risque d'être un petit peu plus clair cette année que ça va pencher vers l'hiver. D'ailleurs, en termes de froid, par rapport aux valeurs habituelles, c'est plus au mois de décembre on sera susceptible de connaître le froid. Par la suite, de l'autre côté des rois, là, ça va être plus un régime de douceur qui va s'installer. Donc, si on a du froid, ce serait au cours des prochaines semaines, et ça nous donne une meilleure garantie d'avoir quand même de la neige là en plus grande quantité. Quand même, le mois de décembre nous offre quoi là au Québec, du 50 à 75 cm de neige habituellement, ou agglutiné autour de 5-6 bordées. Ça risque de ressembler un petit peu à ça.
Mais plutôt froid. En fait, le mois de décembre, en proportion des autres, pourrait être un mois froid dans l'hiver.
C'est là, quand on globalise, on parle de l'ensemble de la saison, là, décembre, janvier, février, c'est notre aperçu. Au total, ça va être un hiver plus doux qu'à l'accoutumée, mais moins doux que ce qu'on a connu l'année dernière.
Jean-Louis, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Bienvenue, bon hiver.
Au revoir. Bon, en espérant que cet hiver va vous... vous laissez la chance de faire les loisirs qui vous plaisent et ce sera pas trop dur. Moi, je dois avouer que je suis toujours très soucieux là, que les routes soient sécuritaires quand tu as des moments, la veille de Noël, le soir, le lendemain de Noël, tous les moments où les gens se sentent obligés d'aller d'une famille à l'autre, puis faire 200, 300, 400 kilomètres. Puis qu'il fait pas beau, ça me stresse, les accidents, les blessés, etc., qui gâchent le temps des fêtes. Fait qu'on va espérer que les tempêtes soient pas trop mal placées pour nuire à vos déplacements. On va s'arrêter pour la pause.
Il analyse l'actualité, il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Cube Radio.
On a un invité de marque aujourd'hui en studio. Présent en studio, on n'a plus si souvent là, depuis la COVID, de temps en temps on recommence, mais il est de passage au Québec, en tournée à Montréal, le chef du nouveau Parti démocratique du Canada, Jack Metzing, bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci.
Tournée au Québec?
Oui, tournée à Montréal, mais oui, tournée au Québec.
OK, pour quelques jours, qu'est-ce qui vous amène, des dossiers en particulier?
Après l'élection, j'ai vraiment voulu retourner au Québec et je sais que... il n'y a pas beaucoup de temps parce qu'on a beaucoup de travail à Ottawa à cause du Parlement. Mais après les élections, j'ai vraiment voulu être ici. Donc, j'ai fait une tournée avec quelques organismes. J'ai fait quelques événements dans la public. Et c'était vraiment un bon temps pour écouter les gens.
Vous avez rencontré les gens de la FTQ, entre autres.
Oui.
Est-ce que le NPD rêve de ça? Parce que à l'extérieur du Canada, le NPD a des alliances quand même solides avec les centrales syndicales depuis des années, des décennies. Moins au Québec, là, traditionnellement, les syndicats étaient avec le PQ, le Bloc. Maintenant, ils s'en mêlent pas. Mais est-ce que vous rêvez qu'un jour, ils s'associent à vous?
Je veux montrer qu'on est des alliés pour les travailleurs et travailleuses. On est des alliés du mouvement syndical. On est une partie fondée par les travailleurs et travailleuses, fondée par les syndicats. Donc, je veux montrer mon alliance et ma volonté d'être quelqu'un qui veut se battre pour les gens. Donc, c'est pour moi, mon but, c'était de montrer cette volonté. Il y a plusieurs dossiers où on peut travailler ensemble.
Vous avez entre autres parlé des congés, là, du nouveau programme. C'est une proposition du gouvernement libéral là, d'instaurer ces congés liés à la COVID de 10 journées. Vous allez supporter ce projet-là?
En plus, c'était une idée qu'on a forcé le gouvernement de présenter. On a demandé depuis 18 mois, 22 fois, de faire une telle mesure.
Et Monsieur Trudeau, il se choque là, quand vous prenez, il dit que vous prenez le crédit pour ces mesures. Là, il se choque dans ce temps-là.
Mais ce n'est pas... c'est le fait. Parce qu'il a dit non 22 fois. Et je me souviens de chaque fois qu'il a dit non. Parce que ce n'était pas à moi qu'il a dit non. Il a dit non aux travailleurs et travailleuses pendant une pandémie qui ont eu besoin d'une congé des maladies payées. Donc, c'est quelque chose qu'on doit avoir. Au niveau fédéral, on a le pouvoir de le faire. Et puis, on peut travailler avec les provinces qui veulent le faire dans leur province ou territoire.
Je comprends qu'on a une situation particulière avec la COVID, mais ces semaines-ci, ces mois-ci, on parle tellement de pénurie de main-d'œuvre qu'à chaque fois qu'il est question de donner plus de vacances, plus de congés, cette question-là est soulevée là, par les employeurs, les petites entreprises. On dit, ouais, mais on n'a pas de personnel, on manque de personnel. Est-ce qu'on peut se permettre d'ajouter des congés à tout le monde?
On a vu dans la pandémie que sans avoir des congés de maladies payées, on a vu des gens qui allaient au travail et puis ils ont partagé la maladie aux autres et puis plus de l'équipe tombe malade et c'est vraiment un grand défi. Donc, c'est meilleur pour tout le monde si on a une congé de maladie payée et les gens peuvent rester chez eux. On a une pénurie de main-d'œuvre. C'est vraiment un grand enjeu. Ça existait avant la pandémie aussi. Et la solution, c'est quelque chose, mais l'immigration, c'est essentiel. On doit avoir une immigration qui réponde aux besoins des pénuries de main-d'œuvre. Ou si on a besoin d'une meilleure formation et connecter les opportunités d'éducation avec les opportunités de travail. Donc, ces deux choses sont essentielles.
Je parlais tout à l'heure de votre présence au Québec, des organisations syndicales comme Alliés. Est-ce que Québec solidaire, qui est quand même un parti qui a vécu beaucoup de croissance ces dernières années au Québec, est-ce que vous avez déjà rencontré les leaders de Québec solidaire? Est-ce que vous les considérez comme des alliés ou des alliés potentiels?
On a rencontré Québec solidaire dans le passé parce qu'ils ont des valeurs similaires pour
investir. Les chefs, Mme Massé ou M. Nadeau-Dubois?
Oui, j'ai rencontré les deux. J'ai rencontré Mme Massé et M. Dubois.
Nadeau-Dubois,
parce que il y a plusieurs enjeux sur lesquels on veut travailler ensemble. Des programmes sociaux, investir dans les programmes sociaux, investir dans les soins de santé et le fait que le gouvernement fédéral n'a pas fait sa juste part avec les investissements. Et on a vu une diminution, une réduction des investissements depuis des décennies. Donc, on veut régler ça. Mais pour nous, c'est vraiment les gens. On veut créer plus de liens avec les gens, avec les personnes. On veut bâtir un mouvement plus fort parce que je sais au Québec, il y a une sensibilité unique où les gens appuient les programmes sociaux comme le système des garderies. C'est vraiment avant-garde ce système au Québec. Le fait que les frais scolaires sont les moins chers ici au Québec qu'au reste du Canada. Donc ça montre une volonté d'avoir des programmes sociaux qui aident les gens.
Je vous ai avec moi. Il faut absolument qu'on se parle de ce qui est dans l'actualité du jour. Je pense aussi que c'est dans les discussions de monsieur, madame, tout le monde, le variant Omicron. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement fédéral? Le ministre de la Santé, monsieur Duclos, était aujourd'hui dans une rencontre du G7. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement de monsieur Trudeau pour réagir? Bon, il y a une part d'inconnu, là, mais pour réagir adéquatement. Là.
Ce que cette variant montre, et c'est quelque chose qu'on a déjà su, c'est le fait qu'on doit aider le reste du monde. On a une pandémie globale et si on fait ce qu'on peut au Canada, mais on n'aide pas le reste du monde à avoir accès au vaccin, on va toujours avoir cette pandémie. Donc, ça montre l'importance de travail avec les autres pays. Un élément important, c'est vraiment de laisser les autres pays avec moins de ressources, d'avoir la capacité de produire le vaccin chez eux. Et ça veut dire une élimination pour le court terme de la protection donnée aux grandes entreprises pour le vaccin. On doit éliminer ça pour un moment pour donner le pouvoir aux autres pays.
Juste sur la disponibilité des vaccins, le Canada devait contribuer, corrigez-moi, 200 millions de vaccins à COVAX, là, la contribution du Canada. On en a quelques millions de données, pas encore beaucoup. Est-ce qu'on peut faire plus de ce point de vue-là?
Oui, on peut faire plus là, mais aussi ce qui est plus important, c'est vraiment, et c'est la demande des autres pays moins nantis.
Leur permettre de produire. Là.
Exactement.
Ça, en levant les restrictions.
Ça, c'est leur demande, et la demande, ça veut dire qu'on doit tenir debout aux grandes entreprises pharmaceutiques, quelque chose que M. Trudeau n'a pas fait jusqu'à ce moment. Les autres pays ont montré une volonté. Même M. Biden, le président des États-Unis, il a dit que je suis d'accord. Mais jusqu'à ce moment, M. Trudeau n'a pas dit ça.
Parler de M. Trudeau, comment on envisage votre rôle dans son mandat? Exemple, le Bloc québécois, je voyais passer une dépêche il y a quelques jours, là, il riait presque du NPD en disant que c'était le club école des libéraux puis que c'est vous qui allez toujours supporter M. Trudeau puis que comme si votre parti était juste là pour appuyer M. Trudeau. Comment vous allez gérer ça? À un moment donné, il y a même une rumeur qu'il y aurait une alliance officielle entre le NPD et les libéraux pour permettre aux libéraux de gouverner en paix. Finalement, vous avez dit non à ça, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Comment le NPD va se conduire dans les 2, 3, 4 prochaines années?
On est maintenant, on a dit qu'on n'a pas donné notre appui au discours de Trump. Le Bloc a dit oui, on va appuyer tout de suite. Donc, ça, c'est un exemple clé. Ce qu'on a fait pendant la pandémie, c'est vraiment, c'était nous qui ont vraiment livré la marchandise pour aider les gens. On était le seul parti qui vraiment travaille pour améliorer l'appui aux gens. On a augmenté les appuis financiers aux gens. On a aidé les appuis aux entreprises. C'était nous qui avons négocié tout ça. Et on est fiers de ça. Mais ce n'est pas le cas qu'on va appuyer les libéraux sans condition ou sans avoir quelque chose qui aide les gens. Notre but...
Ça, c'est non.
Non, pas du tout. Notre but, c'est on veut faire fonctionner ce gouvernement pour les gens. Les gens ont décidé d'avoir un gouvernement minoritaire. Donc, notre travail, c'est d'accord, on accepte votre décision, les décisions des gens. Comment on peut jouer un rôle pour s'assurer que ce gouvernement fonctionne pour aider les gens? Et ça, c'est notre rôle. Et c'est exactement ce qu'on fait. On force le gouvernement de faire plus de choses pour plus de gens. On améliore les projets de loi.
Quand vous dites on force le gouvernement à faire plus de choses, mais dans beaucoup de cas, c'est on force le gouvernement à dépenser plus. Or, M. Trudeau a déjà la réputation d'être un premier ministre très, très, très dépensier. Vous n'avez pas l'impression que vous poussez quelqu'un qui est déjà sa nature profonde, c'est de dépenser beaucoup d'argent. Puis là, vous le poussez à dépenser encore plus, à faire un déficit encore plus gros, non?
À la différence, deux choses. Premièrement, il dépense beaucoup d'argent aux plus riches. Au début de cette pandémie, elle a effectivement financé les grands banques avec des grandes banques avec des milliards et des milliards de dollars. On a dit qu'on doit aider les gens. Il a commencé une subvention salariale à 10 %. On a dit qu'avec 10 %, ça n'aide pas les gens de garder leurs emplois. On a augmenté ça jusqu'à 75 %. Donc, c'était nous qui avons fait ça pour sauver les emplois. Mais on a ajouté une autre chose. On a dit que mais si une entreprise utilise cet argent dans une mauvaise façon, de mauvaise foi, on doit s'assurer qu'il y a des pénalités pour ça. Il a dit non. On a dit que si une entreprise a utilisé les subventions salariales pour augmenter les salaires des PDG ou des exécutifs, on doit rattraper cet argent. Il a dit non. Donc, la grande différence, c'est qu'on est là pour aider les gens. Il est là plutôt pour aider les plus riches, les autres riches continuent de donner des exemptions aux compagnies comme Amazon et Netflix qui ne payent pas le juste part. Donc pour nous, on dit on doit aider les gens, on doit dépenser pour aider les gens, mais on doit aussi s'assurer que les autres riches payent le juste part pour investir dans les gens. Ça, c'est la grande différence entre nous et les libéraux.
Monsieur Singh, vous avez fait campagne électorale énergiquement. Le soir de l'élection, vous faites votre discours. Bon, vous retournez chez vous. Êtes-vous déçu? C'est-à-dire, en cours de campagne, il y avait eu de l'espoir de gagner dans Toronto. Mais c'est toujours ça, les campagnes. Il y a des sondages, des espoirs. Finalement, vous avez gagné quoi? Une couple de sièges de plus, mais vraiment pas beaucoup. Êtes-vous sorti déçu?
J'ai sorti déçu parce qu'il y avait des excellents candidats, candidates que j'ai hâte de voir à Ottawa pour représenter le comté. Donc oui, j'étais déçu, bien sûr, mais j'étais fier du fait qu'on était le seul parti qui a augmenté, seul parti d'opposition qui a augmenté nos sièges. On est le seul parti en général qui a augmenté l'appui, le nombre de votes. On était le seul parti qui a augmenté ça. Donc ça m'a donné de confiance, un peu d'optimisme pour l'avenir. Mais pour moi, mon but, c'était toujours comment je peux, est-ce que je peux aider les gens? Comment on peut faire face à la crise climatique, faire face à la crise du logement? Comment on peut vraiment aider les gens dans les défis qu'ils font face dans leur vie?
Il faut que je pose une dernière question parce que juste avant l'élection, 3-4 jours avant le vote, j'ai une fille de 18 ans qui est ma plus jeune, qui votait pour la première fois. Puis elle me dit, ben là, nous, mes amis à l'école, au cégep, là, on s'est regardé. Puis on voit M. Singh sur TikTok. Elle m'a demandé, est-ce qu'il est... Elle, là, vous voyez danser. Elle dit, est-ce qu'il est sérieux, lui? Qu'est-ce que je devais lui répondre?
Oui, bien sûr. J'utilise tous les outils possibles pour connecter avec les gens. On a plusieurs personnes qui sont TikTok et c'est un outil, dans mon avis, un outil pour connecter avec les gens.
Mais est-ce que vous leur passez du contenu, des messages politiques? Ou c'est
oui,
juste...
tout le temps.
Ah oui, pas juste montrer que vous êtes un bon danseur. Là.
Non. J'utilise le plateforme pour promouvoir les messages progressifs. progressiste, de comment on peut aider les gens, de comment on peut créer un meilleur avenir. Donc, et aussi, de temps en temps, c'est le fun. J'adore cuisiner. Donc, un des derniers TikTok, c'était sur le fait que j'ai cuisiné une jolie bœuf pour ma famille. Donc, j'ai montré ça. Donc, je l'utilise pour le fun, mais pour la plupart, c'est pour envoyer un message progressiste, pour aider les gens et ce qu'on veut faire pour faire ça.
Je pose la question parce que je suis jaloux, mais je n'aurais jamais pu faire ça. Je suis trop mauvais danseur, contrairement à vous. Jacques Médecine, merci beaucoup. Bon séjour au Québec.
Je vous en prie. Merci.
On s'arrête.
Les vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
Mario Dumont.
Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie d'Alexandre Dubé, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québécois. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes. Cube Radio.
Alors, une autre journée chargée en actualité aujourd'hui, alors que le variant Omicron, évidemment, prend énormément de place. On s'inquiète. Rencontre, entre autres, de plusieurs ministres de la Santé du G7 pour parler de ce sujet aujourd'hui. Pfizer, d'ailleurs, qui ont annoncé, là, après Moderna, la semaine dernière, avoir déjà commencé à travailler sur leur nouvelle version du vaccin anti-COVID qui viserait, là, plus précisément, ce fameux variant Omicron. Pour l'instant, on manque beaucoup de données, à savoir, entre autres,
au sujet... En fait, on est même pas certain que le vaccin actuel pourrait pas faire la job. C'est la première chose qu'ils vont essayer de déterminer. Les experts, quand même, ont de l'inquiétude là, sur une baisse de l'efficacité parce qu'il y a plusieurs mutations dans la partie sensible là, de la reconnaissance du virus. Mais bon.
Ce qui inquiète beaucoup, c'est que ça va prendre un petit délai quand même avant qu'on puisse avoir des réponses quand c'était à cet évitement vaccinal-là. C'est les termes qu'utilisait Christian Dubé aujourd'hui. 2 semaines environ, dit-on, là, pour avoir les résultats ici, du moins au Québec. Est-ce que nos vaccins, notre couverture vaccinale qui est solide, va être capable de tenir le fort là, face à ce nouveau variant-là, c'est ce qu'il va falloir voir. À date, on parle d'un variant qui est plus contagieux, mais ce qui est plus fort comme effet ressenti chez l'humain, c'est ça qui n'est pas encore précis. Les autres annonces là, qui étaient dites également aujourd'hui au point de presse de 13h du ministre de la Santé, Christian Dubé, c'était quelques rappels, entre autres que les gens vaccinés, même si ce ne sont pas la grande proportion des gens qui attrapent la COVID, mais peuvent tout de même l'attraper, qu'il faut continuer à respecter certaines mesures sanitaires. Et c'est d'ailleurs un rappel, hein, peut-être douloureux pour certains, qui a dû être fait, entre autres le fait que encore aujourd'hui au Québec, eh bien, s'il y a un nombre maximal de gens à l'intérieur, on peut écouter le ministre de la Santé, Christian Dubé.
Je rappelle aussi, et ça, je crois que beaucoup de Québécois l'ont oublié, puis c'est correct, parce qu'on veut, on tend à penser à ce que cette fameuse crise sanitaire-là, elle est derrière nous. Mais on le voit, malheureusement, elle ne l'est pas. Et je rappelle à tout le monde, que les rassemblements dans les maisons sont toujours limités à 10 personnes. Et ça, c'est important, parce qu'on le voit qu'il y a beaucoup de cas qui viennent de ça.
Je sais pas si c'est une règle que tu souvenais.
Est-ce qu'elle est respectée par tous? Parce qu'il faut bien voir que c'est une règle qui, tu sais, à un certain point, là, c'était déjà une règle qui était très, très, très sensible à faire respecter. Là. Les policiers l'ont fait dans certains cas, débarquer dans des maisons privées où il y avait des gros rassemblements. Plus souvent, je pense que les policiers sont intervenus lorsqu'il y avait une nette exagération. Exemple, des gens qui louaient des chalets à 25 ou des grosses exagérations. Là, est-ce qu'on le fera? C'est ça la question. Est-ce que les policiers le feront encore? Est-ce que les policiers débarqueraient encore dans un rassemblement familial dans l'état actuel de l'opinion publique? Je suis plus certain. Donc, moi, je pense que le gouvernement doit quand même faire des rappels, l'espèce de rappel à la responsabilité. C'est pas obligé. Les gens sont pas obligés de toujours agir logiquement par peur de la police. Là. Dis là, regarde, ça allait mieux, on s'est donné une liberté. Là, il y a un variant qui arrive, il a l'air merdique, c'est bord. Moi, je pense que c'est une. En tout cas, chez nous, mettons, là, il y a comme une recrudescence d'une certaine prudence puis d'une distanciation. Puis tu dis, regarde, dans l'inconnu, vaut mieux être plus prudent que moins. Et c'est triste à dire, mais on est un peu en train de s'attendre à ce que d'ici à Noël, le nombre de cas va rester à la hausse. C'est un risque important.
Mm-hmm. C'est d'ailleurs les vacances de Noël là, qui sont dans la tête de plusieurs personnes, dont surtout ces personnes qui veulent voyager à Noël, hein, parce que on l'a rappelé du côté de M. Dubé, il y a des incertitudes. Si les gens partent en voyage maintenant, il n'y a rien qui exclut qu'en revenant, les restrictions soient différentes. Est-ce qu'il y aura des quarantaines? Est-ce qu'il y aura des tests à passer qui soient plus nombreux, mais plus stricts?
Alexandre, il n'y a pas le choix de dire ça. Les gens qui sont présentement en voyage, par exemple, dans un safari en Afrique du Sud, là,
oui.
Ben, ils sont coincés là.
Oui, c'est ça.
Ils sont un exemple de les règles changent pendant que tu es parti. Et à partir du moment où un variant plus inconnu, plus incertain, très contagieux commence à circuler, je ne veux pas dire que ça va arriver. À mon avis, quelqu'un pourrait aller dans le sud, ça va très bien, il revient, puis. Mais t'as un nouveau petit point d'interrogation. Moi, j'appelle ça, t'as une lumière jaune dans ton tableau de bord. Je pense que les voyageurs, la plupart, je pense, vont partir quand même, mais ils doivent au moins être avertis, savoir ce qui les guette potentiellement.
Oui, puis il y a 115 personnes, d'ailleurs, là, des voyageurs qui sont venus ou revenus au pays, qui ont été interpellés parce qu'ils ont visité un des pays qui sont sous la loupe en ce moment du ministère de la Santé. Donc, ces 115 personnes-là qui ont été appelées, qui sont en isolement en ce moment en attendant les tests. Et c'est sûr que parmi tout ça, il y a un cas ici confirmé du variant Omicron au Québec, mais il pourrait bel et bien en avoir plus, ça c'est certain.
Donc on va surveiller ça. Pas de décision donc avant une semaine pour ce qui est de nos recommandations du temps des fêtes.
Le 6 décembre prochain, tout juste, on aura plus de nouvelles.
Ouais. Si on est prêt. Moi, je pense que le gouvernement faut attendre le plus tard possible. Mettons que le 6, la situation est très embrouillée. On est encore dans une hausse de cas. J'exclurais pas que le gouvernement gagne du temps puis se donne une autre semaine ou quelques jours de plus. Parce que. Je pense que les deux décisions font peur au gouvernement. Toute restriction pour le temps des fêtes fait peur au gouvernement parce que les gens veulent se voir, les gens ont souffert l'an dernier, etc. Puis l'absence de restriction, si on est dans une flambée de cas, bien là, c'est comme... c'est pas compliqué, là, c'est comme une flambée x 4. Tu te prépares une horreur pour le mois de janvier.
Ouais.
Donc, je sens pas que le gouvernement est très à l'aise. Je pense qu'il est comme mal pris avec une décision ou l'autre. Donc, il se donne au moins le temps de voir... C'est quoi le portrait? C'est quoi le portrait des hospitalisations, etc.?
L'autre dossier, évidemment, qui a retenu beaucoup l'attention aujourd'hui, eh bien, c'est la sortie, là, finalement, qui était bien attendue de Geoff Molson, le propriétaire et président des Canadiens de Montréal, après le congédiement de Marc Bergevin, qui avait été démis là, de ses fonctions, lui ainsi que Trevor Timmins, le gourou du repêchage là, depuis la saison 2002-2003. Ça faisait longtemps qu'il était là, hein, M.
Oui,
Timmins.
Vraiment, on oublie. Vraiment, avec on des oublie. Succès quand même limités. Là. Moi, c'est ce qui me frappe... Le Canadien était probablement une des équipes qui avait le plus faible taux de réussite d'avoir ses joueurs, de voir ses joueurs recrutés devenir des joueurs à succès dans la Ligue. Là.
Non, il n'y en avait pas beaucoup, effectivement, de ces joueurs-là. On pense peut-être au Gallagher. Là.
Mais Gallagher, ça fait longtemps. C'était dans les années 2000.
Mais
les deux derniers gros choix, là, quand le Canadien a repêché tôt, c'est Galchenyuk et Kotkaniemi.
Oui. C'est sûr que ça a des succès assez limités, sachant que les deux ne jouent plus là, à Montréal. Et donc, le point de presse qui était bien attendu, on parle de tourner la page d'un vent de renouveau, tout en remerciant, là, bien évidemment, Marc Bergevin pour ses services, lui qui était là depuis 2012 et qui avait hérité, là, je suis retourné voir quand même, hein, en 2012, il avait hérité d'une... disons, d'un alignement qui était assez douteux aussi.
Ah oui, l'équipe était faible. Mais je me souviens de Geoff Molson qui avait dit, il faudrait retrouver les mots exacts à l'époque, mais et qui voulait retrouver Bergevin et compagnie. C'est l'idée de retrouver une culture de gagnant, une culture de la victoire, de ne plus avoir une culture de la médiocrité.
Objectif accompli, Mario?
Cette année, je vais aller voir le résultat des matchs cette année puis le classement de cette année. Là.
Qui n'est pas extrêmement là, rutilant, c'est certain. Et donc là, c'est un point de presse qui va donner matière à réfléchir, surtout qu'il y a toujours des postes qui restent dans le brouillard en ce moment. On ne sait pas qui va remplacer officiellement Marc Bergevin, quoique il y a plusieurs noms qui sont sur la table et dans les rumeurs, hein, sur les réseaux sociaux.
Ça parle beaucoup. C'est juste des francophones. Là, on se comprend que là, on a mis un VP opération hockey qui, lui, est un Américain. Donc,
Jeff Gorton, qui est l'ancien directeur général des Rangers de New York.
Donc, une langue anglophone de facto. Donc là, son directeur gérant, lui, va être un francophone.
Ça va être quelqu'un aussi issu probablement du milieu du hockey, hein, ça reste à voir, mais beaucoup de noms qui circulent pour l'instant, c'est d'anciens joueurs ou des gens qui ont touché de près ou de
en fait,
loin
le seul
là, aux organisations.
Qui n'est pas un ancien joueur, je pense, c'est Martin Madden Jr., là,
ouais.
Qui lui est vraiment un administrateur d'équipe, je pense qu'il est avec Anaheim présentement, mais les autres, ouais, c'est surtout des anciens joueurs. Quand même, un fait à noter, c'est le congédiement en même temps que les autres. Généralement, tu sais, c'est des gens de hockey, des fois même l'entraîneur y passe avec le directeur gérant. Mais là, il y a le vice-président communication, Paul Wilson, qui passe à la trappe.
Oui, aussi, hein, faut croire que les dernières sorties, disons, plus controversées, médiatiques du Canadien, n'avaient peut-être pas plu à Geoff Molson. Il faudrait suivre. Puis d'ailleurs, parlant de sorties controversées, on a parlé aussi du dossier Logan Mailloux un tout petit peu aussi. On a parlé du plan de sensibilisation au danger des cyberviolences sexuelles au public et à l'organisation. Là, $1 million qui a été investi là-dedans. On a voulu en reparler, mais disons que c'est peut-être pas un dossier qui a contribué à la cause de Marc Bergevin et du Canadien en général.
Certainement pas.
Autre gros dossier du week-end, évidemment, c'est cette intervention policière controversée qui a eu lieu contre un jeune homme près des bords de Québec, donc près du Dagobert, la Grande Allée. Un jeune homme là qui, on l'a pu voir sur une vidéo sur les réseaux sociaux, qui est devenu vraiment viral. Les images troublantes où on le voit être mis violemment au sol, ce jeune homme de 18 ans-là, Pacifique Nio Quizera. Et donc, se faire lancer de la neige au visage, se faire donner plusieurs coups. D'ailleurs, là, le vidéo montre son œil qui est tuméfié, véritablement. Il a reçu plusieurs coups au visage.
Il y a une autre fille aussi qui se fait ramasser.
Par les cheveux, qui se fait lancer, plaquer contre une voiture. Bref, c'est des images qui sont extrêmement troublantes. Et déjà, on parle peut-être d'une poursuite contre la Ville de Québec du côté du jeune homme de 18 ans. Évidemment, on dit de ne pas vouloir écarter aucune option, que ça peut être un processus qui peut être long. Son avocat, Maître Fernando Belton, aujourd'hui, qui a réagi, et selon lui, ça ne fait nul doute, c'est un cas de profilage racial.
Il n'y a aucune raison, même si que ce soit Pacifique ou peu importe la personne qui aurait des gestes à se faire reprocher, il n'y a aucune raison pour les policiers d'agir de cette façon-là. Puis pour moi, c'est clair, c'est une question de profilage racial. Quand on parle de traitement différentiel, c'est exactement ça. Les personnes noires, racisées, marginalisées, ne sont pas traitées de la même façon par les services de police. Puis ça, c'est un exemple, encore une autre fois, qu'on a aujourd'hui.
Mais le service de police de la Ville de Québec, je sais, là, je connais les chansons, quand il y a une enquête en cours, on ne veut pas parler publiquement. Mais ça, c'est vrai puis c'est pas vrai. Là. Tu ne veux pas parler publiquement des détails de l'enquête. Mais exemple, dire au public, parce que là, on voit un bout de vidéo, parce qu'il y a eu des choses avant. Ne serait-ce que dire au public aujourd'hui que le service de police enquête, mais enquête sur une intervention des policiers visant à rétablir l'ordre public. Parce que là, on ne sait même pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi les policiers interviennent? À propos de quoi ils interviennent? Est-ce qu'il y a eu un vol? Semble qu'il y a eu une situation à l'intérieur
du bar,
mais l'altercation...
Ouais, que ce serait poursuivi à l'extérieur, c'est ce qu'on dit.
Mais on ne sait pas trop quoi, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, les policiers intervenaient dans quel cadre et pourquoi ils s'en sont pris? Est-ce qu'ils pourraient intervenir comme ça sur des individus, c'est que tu penses qu'ils sont un vrai danger pour les autres, pour le public? Alors là, je sais pas, les policiers s'aident pas, le service de police de la Ville de Québec ne s'aide pas, en ne transmettant même pas, pas que l'intervention était bonne ou pas, mais qu'est-ce qui se passait, là, en quel genre de matière, avec ça accrédite au maximum l'idée qu'on était dans le profilage, on sait même pas ce qu'ils faisaient là, on est même pas capable de nous résumer en quelques phrases qu'est-ce que les policiers faisaient à ce moment-là.
Ouais, puis tout ce qu'on a, tu le dis, comme élément, là, c'est sûr, il manque l'avant, il manque l'après, mais tout ce qu'on voit dans la vidéo, ça a été suffisant pour interpeller le monde politique, hein, le premier ministre.
Mais c'est des jeunes qui se font bûcher dessus et qui se défendent pas. Puis là, tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on accomplit ici, là, puis pourquoi?
Ouais, exactement. Puis quand on parle justement d'une éventuelle poursuite, il y a plusieurs dommages qui ont été évoqués par son avocat, entre autres. Parce que oui, il y a les dommages moraux, mais il y a des dommages matériels parce qu'il se serait saisi, les policiers, du téléphone du jeune homme, puis il l'aurait lancé à bout de bras, puis il l'aurait pas retrouvé, là, lui, après son interpellation. En plus, il y a eu des dommages physiques, il a été blessé. Puis c'est un jeune boxeur, hein. Est-ce que ça va avoir des impacts sur sa future carrière? Là, évidemment, du côté de son avocat, on ne veut négliger aucune option, mais ça a provoqué toute une stupeur. Puis, selon les experts policiers aussi, il y a encore d'autres interrogations. Puis, ça ramène, si on veut, une lumière peut-être un peu disgracieuse sur le service de police de la Ville de Québec, à savoir, à ce jour, il n'y a toujours pas de policiers noirs. Non, mais en uniforme.
Il semble qu'il ait été dit quelque chose du genre retourne à Montréal.
C'est d'autres propos là, évidemment, qui sont pas nécessairement captés par la vidéo.
Qui sont relatés par d'autres gens. Et là, tu te dis, OK, mais les jeunes, c'est des jeunes de Québec, ils sont pas de Montréal. De quoi on parle? C'est un dossier complexe. Reste à voir. Je sais que Dominique Anglade et quelques autres demandent une enquête indépendante.
Mm-hmm.
Pour l'instant, c'est une enquête interne du service de police de la Ville de Québec. Je ne sais pas si ça va pouvoir en rester là, sincèrement.
Exactement. Puis ça a fait réagir aussi quelqu'un d'autre qui n'est pas étranger à ce genre de situation-là. Mamadi Farah Camara, qui avait été lui aussi là, au centre de toute une histoire ici à Montréal. C'était fait pas mal brasser par les policiers alors qu'il y avait erreur sur la personne, que ce n'était pas la personne du tout visée. Qui a dit lui aussi, pour avoir été victime là, d'une bestialité policière du SPVM l'hiver dernier, je comprends effectivement le choc, la douleur qu'endure ce jeune homme noir, sa famille de Québec. Cette brutalité n'a pas sa place dans une ville qui prône la diversité. Donc, c'est sûr que...
Il a réagi sur Twitter aujourd'hui.
Okay. Puis d'ailleurs, il a ajouté à ça qu'il y a une forte population étudiante noire à l'Université de Laval qu'il a lui-même fréquenté. Quel message veut-on envoyer à ces milliers d'étudiants étrangers du Québec qui sont installés ici ou voulant entreprendre des études au Québec? C'est sûr que ça pousse à la réflexion, à voir si M. Camara offre d'autres sorties là-dessus lui aussi. Mais disons que ça ne fait pas reluire le blason du service de police de la Ville de Québec. Cette intervention-là, c'est certain. Parlant de police, il y a également du côté du SPVM des annonces qui ont été faites aujourd'hui, à savoir la tenue d'un forum qui va se tenir en janvier entre le SPVM, la Ville de Montréal ainsi que les intervenants des milieux communautaires, institutionnels et politiques pour avoir ce qu'on dit une action concertée sur le problème évidemment de la violence par arme à feu, parce que ça c'est un autre dossier qui préoccupe énormément les milieux policiers en ce moment. On dit qu'en décembre, il va y avoir également une rencontre des partenaires communautaires et institutionnels dans le milieu de la prévention, justement. Mais disons que ça n'a pas plu. On peut s'y attendre, mais ça n'a pas plu à l'opposition qui, eux, dénoncent le fait que ce soit encore des démarches bureaucratiques qui soient longues. On n'aura pas de réponse avant peut-être des mois. Puis c'est certain que le problème est immédiat. En même temps, on n'arrête pas de vouloir parler de concerter tous les paliers ensemble. Est-ce que ça va pouvoir aider?
Moi, des jeunes se font tirer dans la rue, des coups de feu sont tirés. C'est certain que quand tu es un élu, je me mets dans la peau de la mairesse, c'est OK, on crée un comité, on fait un forum, peu importe. Tu n'es pas tellement dans le genre de circonstances pour faire des réunions d'études là, ou des colloques. Mais bon, une fois ça dit, Il faut juste que ce soit clair du côté de la police, qu'on continue à travailler. Les policiers ne se mettent pas sur pause en attendant les résultats du forum.
Non.
Les policiers travaillent, font des interventions, vont faire des descentes, etc. Mais pour enrichir leur travail, parce que les justifications du forum sont quand même réelles. Là. Par exemple, que dans le monde communautaire, on a de l'information, on sait ce qui se passe, on connaît les problèmes des jeunes, etc. Comment les empêcher de rentrer dans les gangs de rue, comment démanteler peut-être certaines gangs, qui a peur de qui. Tu sais, il peut y avoir de l'information, il peut y avoir des collaborations qui sont très utiles au travail policier. Donc c'est pour ça que quand on l'explique, on comprend que un forum comme ça pourra avoir son utilité. Mais je pense que dans le public, si t'annonces que le service de police se met sur pause en attendant qu'on ait eu un forum, t'auras pas beaucoup d'appui de monsieur et madame tout le monde. Là.
Non, c'est certain.
Tout savoir en 24 minutes.
Québec a finalement dévoilé ses rapports d'inspection à CHSLD aujourd'hui, alors que s'ouvraient les audiences publiques de l'enquête là, sur la vague de décès qui est survenue dans les établissements des CHSLD, donc au début de la pandémie. La coroner Jeanne Kamel, puis je dis finalement parce que au départ ce matin, elle a envoyé un message à l'ouverture en disant qu'elle n'avait reçu du ministère qu'une grille vierge.
C'était comme donc, le formulaire, ni plus ni moins.
Ouais, comme un formulaire à remplir, il n'y avait absolument rien, et un tableau Excel qui comptabilisait le nombre d'inspection, parce que c'était cela qu'on voulait avoir, les rapports d'inspection, qui avaient été effectués. Et tu sais tout. Et quelques instants plus tard, semble-t-il, finalement, il y a un document qui contenait les grilles d'inspection remplies qui a été rendu public. Le ministère de la Santé s'est engagé à fournir ces documents-là, devait les fournir d'ailleurs aujourd'hui. Et on se rappellera, là, le gouvernement au début qui avait plaidé, de par la sous-ministre adjointe aux aînés, Nathalie Rosebush, que ces documents-là étaient seulement remplis verbalement. Il n'existait pas de copie papier. Et finalement, le ministère de la Santé et des Services sociaux avait ensuite, de leur côté, précisé qu'il existait des copies de sauvegarde de ces documents-là. Donc, manque de communication, on ne voulait pas les montrer. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est chose faite. On les a. Mais disons qu'il y a eu quand même ce petit flou ce matin qui est survenu. Puis c'est certain que c'est une enquête là, qui va être très, très suivie. Il y a beaucoup de gens qui s'attendent à avoir des réponses à ce qui s'est arrivé à leurs proches en CHSLD au début de la pandémie.
Une histoire de loyer.
Oui, une histoire de loyer, de plusieurs loyers là, au pluriel, hein, qui sont impayés en ce moment. Il y a des propriétaires de Montréal qui sont exaspérés par l'inefficacité du système du tribunal administratif du logement en ce moment parce qu'il y a un locataire, entre autres, qui répète un stratagème depuis 10 ans pour éviter... pas moins, l'on dit minimum 43 000 $ de loyer.
Ouais, on dit minimum parce que 43 000, c'est ce qui est documenté au tribunal. Là.
C'est ce qui est documenté
au tribunal. Il peut en manquer d'autres, mais ce qui est documenté au tribunal en termes de réclamation de cause qu'il a perdu, 43 000. Mais il perd ses causes, mais il paye jamais quand même parce qu'il n'y a pas d'argent.
Exactement, il paye jamais ses causes et tout ça, lorsqu'on doit lui donner là, des montants en loyer. Par exemple, si on parle de Michel Bounader, qui était l'un de ses propriétaires-là, eh bien, il a été chez lui de 2018 à 2020. Il lui doit 11 622 $ de loyer. Et même si le tribunal lui a donné raison, mais en ce moment, ben, ça va couvrir le loyer, OK, mais pas les frais de la régie, pas les avocats, pas les mois subséquents après ça au jugement.
Mais
en
ça
ne
couvrira pas parce qu'il l'aura pas son 11 000. À moins de trouver une façon, mais l'individu n'a pas de biens saisissables, n'a pas de compte de banque avec des sommes significatives dedans. Les biens qu'il y a, ce que je comprends, c'est des biens de base donc qui sont dont il a besoin pour sa vie quotidienne, donc ils sont jugés non saisissables.
Et donc, il n'y a aucun moyen de payer, de rembourser les propriétaires comme ça. Et semble-t-il, ce que je le disais, ça fait 10 ans qu'ils utilisent le même stratagème. Ils se présentent comme quelqu'un de super affable, gentil, proposent même de payer certains mois en avance et tout. Et par la suite...
Ben, oui, ça, tu sais pourquoi? C'est parce que les propriétaires ont accès à une démarche complexe auprès de la régie du logement par laquelle il pourrait retrouver là, au tribunal administratif du logement des jugements contre quelqu'un. Là. Il trouvera avec son nom... Pendant sa date de naissance, il pourrait retrouver, OK, lui, là, il y a des dossiers ici, des loyers non payés ou des réclamations pour des loyers non payés. Mais bon, c'est compliqué.
Des fois, tu as besoin de remplir.
Non, puis il y a un coût administratif là, pour les propriétaires de faire cet exercice-là. Il y en a qui le font quand même. Il y a peut-être des plus gros, tu sais, des gros locataires qui ont beaucoup de logements. Ils vont avoir un avocat à temps plein qui va faire ça. Là.
Exact.
Mais des petits locataires, bon, le monsieur est gentil, le monsieur est bien poli, il propose de te donner une avance pour être sûr. Ah, mon Dieu, qui est correct, lui. En v'là un qui est droite.
Enfin, un bon payeur. Et au final, justement, quand il dévoile son vrai visage, ben, il est trop tard. Et c'est surtout les délais également. Ce genre de tribunal administratif-là, ils sont extrêmement longs. Et ça n'a pas l'air de s'arranger bientôt. Ouverture du procès extrêmement suivi de Ghislaine Maxwell, qui est l'ex-compagne hein, du défunt milliardaire américain Jeffrey Epstein, 2 ans précisément après son suicide en prison. Suicide, peut-être pas un suicide pour certains adeptes de théorie du complot.
Suicide toujours questionné. Mais pas que, disons que les gens disent ça tombait bien.
Ça tombait extrêmement bien parce qu'on se souviendra que ce couple-là, ultra puissant, très très riche, a eu des fréquentations du monde mondain, hein, des gens de la haute société qui fréquentaient.
Politique, affaires,
et c'est pour ça que ça va être extrêmement suivi hein, dans bien des milieux. Ça s'ouvrait ce matin à la Cour fédérale de Manhattan. Les 12 jurés avaient déjà été sélectionnés au préalable. Et du côté du FBI, là, on décrit cette femme-là de 59 ans comme une scélérate cultivait l'art de la manipulation. Elle a 6 chefs d'accusation contre
manipulation
elle.
Pour recruter des mineurs, recruter des jeunes filles.
Pour recruter, parce qu'elle aurait joué le rôle de rabatteuse, donc entre 1994 et 2004, d'aller chercher des jeunes filles mineures. Elle allait près de leurs écoles, près de leur travail, des jeunes filles parfois aussi jeunes que 14 ou 15 ans, les approchait, allait au cinéma avec elle, allait magasiner avec
quelques
elle,
en faisait cadeaux,
quelques cadeaux à Miami, et après ça... Ben, leur demandait de venir faire un massage à un homme réputé poli, gentil, riche, surtout, et un massage non sexuel pour quelques centaines de dollars. Et par la suite, lorsque le massage avait lieu, eh bien, il y avait agression sexuelle dans presque tous les cas, et certaines agressions, on accuse également Mme Maxwell d'y avoir participé en compagnie de M. Epstein. Et donc, elle plaide non coupable à tous ces chefs d'accusation-là, et sa défense va être quelque chose quand même, alors qu'elle fait appel à une psychologue dont on a entendu parler l'an dernier parce qu'elle avait également œuvré pour le procès d'Harvey Weinstein. Mme Elizabeth Loftus, qui elle est spécialisée dans les faux souvenirs d'agression, c'est-à-dire elle essaie de pousser une théorie comme quoi les victimes d'agressions sexuelles parfois inventent des détails lorsque leur cerveau essaie de se protéger. Et donc, ça va être un procès, on le disait, très, très suivi. Il y a des gros noms.
C'est ça, parce qu'on suit le procès, parce que l'histoire en elle-même nous intéresse, mais veut pas, tout le monde se demande, est-ce que le nom du prince Andrew, le fils d'Élisabeth II, le frère du prince Charles, va sortir.
Qui lui est déjà fait déjà ben oui, fait lui, déjà une plainte hein, pour agression sexuelle.
D'une des filles. Est-ce que le nom de Bill Clinton va sortir?
Celui de Donald Trump également.
Donald Trump.
Deux anciens présidents quand même hein, sur une liste comme ça. Là,
qui mais il y avait beaucoup d'amis, M. Epstein.
M. Epstein avait beaucoup d'amis, puis il y en a qui ont visité son ranch, son île, sa maison de Manhattan. Et disons qu'il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans ces endroits-là. Et c'est drôle parce que ça a été lié aujourd'hui là, par certains qui aiment voir des liens un peu partout à la démission d'un autre homme très important et très riche lui aussi, Jack Dorsey, qui était le directeur de Twitter, un de ses fondateurs, qui a annoncé son départ, remplacé par le responsable technique du groupe, Parag Agrawal, et décidé de quitter aujourd'hui en parlant justement de vouloir passer le flambeau, que le fondateur n'était plus requis dans la machine. Mais il y en a beaucoup qui ont vu ça sur les réseaux sociaux et certains, disons, sites plus complotistes, conspirationnistes, comme un aveu peut-être de sa part, un homme qui lui aussi serait peut-être cité dans le procès. Il n'y a aucune preuve de tout ça, bien évidemment, mais c'est sûr que c'est deux nouvelles qui ont été là mystérieusement comme ça reliées aujourd'hui.
Mais tu sais que sur les marchés boursiers, quand il a annoncé son départ, l'action de Twitter, puis ça a rebaissé après. Mais l'action de Twitter a monté, je ne sais pas de combien, mais dizaines de pourcents, quelque chose comme ça.
À l'ouverture, on avait un 5% vers 11h ce matin. Parce que
je me disais, ah, tu prends-tu mal ça? T'annonces rien de spécial, t'annonces juste, je m'en vais. Puis l'action monte tout de suite.
Et c'est peut-être, honnêtement, purement cosmétique parce que M. Dorsey, on lui avait souvent reproché son éthique de travail, entre autres. C'est un homme avec une, si vous voyez des photos, avec une très longue barbe, tu sais, mal entretenue. Il avait pas l'air d'un PDG d'énormes réseaux sociaux, tu sais, d'énormes réseaux extrêmement riches. Bref, donc, Jack Dorsey qui quitte, le procès de Justin Maxwell à suivre. Tout ça, évidemment, dans l'actualité très chargée du jour.
T'as une petite nouvelle de Corée du Nord en conclusion?
Ben oui, une petite nouvelle de Corée du Nord. Une autre interdiction qui se rajoute maintenant en Corée du Nord. Il y en a quelques-unes, je crois, dans ce pays en ce moment. C'est l'interdiction de porter un manteau de cuir, Mario.
Pourquoi? Par protection des animaux?
Non, non, non. Parce qu'il y a une personne qui porte un manteau de cuir et cette personne-là, Kim Jong-un, le leader suprême de Corée du Nord, ben veut s'assurer d'être le seul à pouvoir porter son manteau de cuir. Donc, ça a été déclaré par la police que porter des vêtements qui ressemblent à la plus haute dignité du pays, ça a des tendances impures et ça défie l'autorité, ni plus ni moins, de Kim Jong-un.
Donc, il y a l'exclusivité du manteau de cuir dans le pays.
Ah, il peut. C'est le seul qui peut le porter. Maintenant, on peut plus le vendre non plus. Hein, les magasins qui vendraient le même modèle manteau de cuir que celui qui porte.
C'est pas tout manteau de cuir, il y a un certain manteau de cuir.
Son manteau de cuir là, qui lui ressemble, le long manteau noir, l'espèce de trench coat, là, on dirait en anglais, ben, on encourt la confiscation des vêtements, de son matériel, si on en a dans les magasins, on peut pas en vendre. Parce qu'en 2019, la première fois, il s'est affiché avec ce beau manteau, ben, il y avait des centaines de Nord-Coréens qui l'avaient imité en voulant acheter le même manteau pour lui ressembler. On dit que l'imitation, c'est flatteur, mais M. Kim Jong-un ne semble pas être du même avis.
Franchement, imiter le leader suprême. Résumer l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.
Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs.
Mario Dumont.
Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
Mario Dumont nous attend dans les studios de Cube Radio. Mario, ce variant au micro, on n'avait pas de nom la semaine dernière, mais là, voilà qu'il fait déjà des ravages et on en a même constaté sa présence chez nous.
Ouais, j'ai l'impression que c'est une question de jour qu'on va prendre conscience qu'il est un peu partout dans le monde. Là. À partir du moment où on le cherche, on le trouve, il a déjà commencé à se répandre. Réaction, évidemment, tout le monde politique est sur un certain qui-vive. En même temps, pas de panique. Quand je dis ça au Québec, au Canada, ailleurs. Mais ça risque de provoquer quand même certains changements. Là. Est-ce qu'il y aura des changements, par exemple, à la frontière? Le Canada avait rouvert, enlevé quand même pas mal de tests. Je pense aux voyageurs. Les gens, si vous allez dans un pays et qu'ils se déclarent des éclosions majeures du variant Omicron, là, pendant que vous êtes là, ça se peut là, qu'au retour, il y a une quarantaine, il y a des mesures spéciales. Donc, il y a comme... C'est comme une nouvelle lumière jaune. Je pense pas que toute la... Tu sais, la vie arrêtera pas, je pense pas qu'on retourne au couvre-feu, là. Mais juste une lumière jaune qui est rallumée dans le tableau de bord. Parce que, bon, on sait qu'il est plus contagieux. Ça, je pense pas qu'il y ait de doute. Ça semble clair. On n'est pas sûr qu'il soit plus virulent, là, plus dangereux pour la santé. Même en Afrique du Sud, bon, les premiers témoignages de médecins disent qu'il serait peut-être moins sévère, mais il n'y a pas de patients âgés. Il faut être prudent. On va dire, pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'il est plus ou moins virulent. Et surtout, ben, la plus grosse question, on ne sait pas jusqu'à quel point l'efficacité du vaccin va être maintenue, diminuée un tout petit peu ou diminuée significativement. Donc, c'est le genre de questions à l'heure actuelle avec lesquelles on vit.
En tout cas, là, on cherche. Puis il pourrait y avoir un nouveau médicament également.
Depuis le début de la pandémie, là, on peut remercier, comparé à la grippe espagnole, on vit quand même, nous tous, là, on vit à une époque de l'humanité où les chercheurs, la science, les cerveaux humains sont capables de s'attaquer rapidement, avec précision, avec compétence, pour trouver des solutions au fur et à mesure. On en a quand même plein les bras là, avec la COVID, mais c'est sûr qu'on vit à une époque. Aux autres époques, là, qu'est-ce que tu veux, le virus frappait, les gens décédaient, puis il n'y avait pas de moyen de se protéger. On comprenait même pas exactement là, qu'est-ce qui se produisait. Reste la question de Noël, où M. Dubé a dit on devrait donner une réponse le 6 décembre. Moi, je pense que si le 6 décembre, si lundi prochain, c'est encore flou, si on ne sait pas encore où on s'en va, ça pourrait même être reporté d'une autre semaine.
Je pense qu'ils ne prendront pas le risque de faire ce qu'ils nous ont fait l'an passé,
non.
De dire oui, puis après non.
Mais Pierre, le risque, c'est qu'ils ont peur de deux options, là. Ils ont peur que les gens réagissent mal si on restreint la capacité de fêter Noël pour une deuxième année de suite. Mais ils ont aussi peur que tout le monde fait des rassemblements fête Noël à un moment où il y a des éclosions majeures et que le mois de janvier est un calvaire dans les hôpitaux. Ils ont peur des deux options.
Oui, vraiment. Qu'est-ce que Mario Dumont pense de cette direction bicéphale? Est-ce que le DG que Jeff Molson nous dit sera francophone, à tout le moins parlera français, saura s'exprimer en français, sera un francophone de service?
Ce serait, je pense, trop sévère de dire ça. Je pense, mais il faut accepter, là, moi, ça me déçoit un peu, mais le vrai chef des opérations hockey, qui va être au-dessus du DG, c'est un unilingue anglophone. En fait, c'est un Américain. On en dit beaucoup de bien dans le monde du sport. Ça, je peux pas me prononcer sur ce bout-là. Mais c'est clairement un unilingue anglophone. À cause de ça, on va le compléter d'un directeur gérant qui parle français. Bon, il y a un côté où je suis déçu, puis de l'autre côté, je me dis attendons pour voir, parce que peut-être qu'on nommera un directeur du recrutement qui sera un francophone, qui aura un intérêt particulier pour la Ligue de hockey junior majeur, puis qu'on va voir éclore des jeunes talents francophones dans le Canadien, puis que dans quelques années, on va applaudir, ce qui a été peut-être la chose la plus négligée des dernières années. Donc, il fallait faire quelque chose. Sur le plan du hockey, ça pouvait pas rester dans l'état d'abandon où c'était. Il fallait que M. Molson s'exprime. C'est à lui l'équipe. Et là, ben, c'est le choix qu'il a fait. Il a misé sur le hockey plutôt que pour la langue, semble-t-il.
Bon, maintenant, en terminant, parlons de Dominique Anglade. Elle s'est passé un peu inaperçue en fin de semaine, là, le Congrès libéral, où elle semble en tout cas avoir vraiment assis son leadership correctement.
Oui, coup des franches avec ses militants. L'opération est réussie de ce point de vue-là. Montrer un sentiment d'unité, montrer que le parti est en action, montrer que le parti est derrière sa chef. On a quand même un certain enthousiasme. On avait eu toutes sortes de problèmes au Parti libéral. Là, les membres sont là, ils sont de bonne humeur. Reste sur le plan du contenu. Ce projet éco, là, on veut allier économie, écologie. C'est intéressant, ça positionne le Parti libéral. Ça s'inscrit plus largement quand même dans un certain virage à gauche. Certains diront, sur certaines résolutions, on est dans le wokisme là, complètement. On verra, mais moi, je considère que Mme Anglade sort, je pense, heureuse de son congrès. Là, elle a coche mission accomplie.
Merci, Mario. Demain, 10h sur LCN.
Alors, Alexandre, en terminant l'émission, être coincé dans une tempête de neige, ça peut être plus ou moins désagréable. Ça dépend où est-ce qu'on est coincé.
Oui, ça dépend parce que s'il y en a qui, cet hiver, vont certainement être très fâchés d'être coincés, rester pognés quelque part dans un banc de neige, mais c'est pas le cas pour une douzaine de clients qui ont été enneigés au Royaume-Uni alors que la tempête Arwen qui balait le pays... Ils ont été coincés dans le plus haut pub du Royaume-Uni. Le plus haut en altitude, 1732 pieds au-dessus du niveau de la mer dans le nord de l'Angleterre. Vendredi soir, il y avait plus de 60 fêtards qui étaient réunis au Tan Hill Inn. C'est à Swaledale, c'est dans le nord, donc. Et il y a seulement trois routes qui mènent à ce petit pub-là qui est très, très haut, donc, en montagne.
Et les routes fermées.
Ben, deux des routes ont été bloquées par la neige. Il y a une autre sur laquelle une ligne électrique est tombée en raison des forts vents. Alors, ben, le pub s'est retrouvé isolé du monde. Et il y a donc là, une douzaine de personnes qui étaient encore là, qui sont restées toute la fin de semaine, donc vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à ce qu'enfin on puisse venir les sortir de la neige. Mais tous ceux qui sont restés là Il y en a qui ont installé des tentes à l'extérieur. Il y en a d'autres pour qui on dit on a mis des lits à l'intérieur, des lits de fortune. Et puis on parle de jeux questionnaires, des jeux de table, du karaoké, du chant en groupe. Il y avait même un groupe de musique de reprise du groupe Oasis qui était
coincé là.
Ouais, pour un spectacle vendredi. Donc ils ont joué de la musique et semble-t-il que le personnel a été excellent sur les publications Facebook qui ont été amenées par
les. Tant qu'il y a de la bouffe puis de la bière là.
Ben c'est ça. Puis c'est ce qu'on parle du côté des propriétaires de ce petit pub. Là, c'est que comme c'est déjà tellement isolé du reste du monde, ben ils ont des réserves de carburant, de nourriture, de boissons en prévision des événements comme ça. Dès qu'ils savent qu'une tempête qui s'en vient, ben ils font provision de tout. Donc il y avait de l'alcool, de la nourriture à flot dans le pub et les gens qui sont restés là 3 jours disent qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire. Donc c'est plus fun d'être coincé là qu'au dentiste, mettons, par la neige.
Merci Alexandre, merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous demain 15h30, c'est Sophie Durocher qui s'en vient.
Cube Radio.